En 1978, à seulement 16 ans, Marco Pierre White quitte la ville ouvrière de Leeds dans le nord de l'Angleterre. Suspendu à son bras, un sac de vêtements, un dictionnaire culinaire en français et 7 livres sterling seulement. Direction Londres, White frappe à la porte du mythique Gavroche, restaurant français tenu par les frères Albert et Michel Roux. Dans la chaleur suffocante des cuisines, il ne comprend pas un mot du jargon qu'on lui balance. Il prend note, observe, puis l'histoire s'accélère en 1994. À seulement 32 ans, il devient le plus jeune chef britannique à obtenir 3 étoiles Michelin. Marco Pierre White, parti de presque rien, si ce n'est un dictionnaire et une ambition brûlante, c'est ce même désir urgent qui a dévoré mon invité. Elle débarque à Paris à 17 ans, des recettes de soca et de pissaladière plein la tête. À 21 ans seulement, Julia Sedef-Jean devient la plus jeune chef étoilée de France. En fil conducteur, sa Méditerranée natale, aux commandes de son restaurant parisien Baïetta, elle conjugue exigence, chaleur, tradition et créativité. Bonsoir Julia Sedef-Jean.
Bonsoir.
Et comme si parler de cuisine à la radio n'était pas déjà un défi, on a décidé au MAC de corser un peu les choses. À l'heure où la culture culinaire se vit aussi sur Instagram, on va vous présenter Julia, un artisan de l'image gourmande. Il s'appelle Franck Hamel. Il va nous dévoiler l'art subtil de donner faim avec une photo. À 18h30, comme tous les soirs, le panorama culture culinaire cette fois-ci. Au programme, quand les restaurants réduisent leurs portions pour s'adapter aux coupes fins, une BD sur les dessous de la cuisine, un musée incontournable et un petit tour sur la Nationale 7. Alors posez-vous tranquillement, attachez votre serviette autour du cou, rincez-vous le gosier. Le MAC de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le MAC de l'été. Constance Villanova.
Julia Sedef-Jean, j'aimerais que vous nous racontiez l'anecdote, la fameuse anecdote qui a fait de la cuisine un monde merveilleux pour vous. Elle concerne, je crois, votre parrain et une motte de beurre, c'est ça?
C'est là, ok.
Racontez-nous.
Cette fameuse anecdote, ouais, c'est le papa de ma marraine, en fait, qui était pâtissier. Et quand j'étais petite, le mercredi et les week-ends, je montais souvent chez ma marraine. Et on pâtissait ensemble parce que mon amour pour la cuisine a commencé par la pâtisserie. Et du coup, Lulu me racontait toujours des petites histoires. Et un jour, il me dit, tu sais, à l'époque, on gagnait pas bien nos vies. Le beurre, la crème, tout ça, c'était des produits et des denrées très chères. Une fois, j'ai un copain prêt à changer, à rentrer à la maison, qui cache une motte de beurre sous sa toque. Il va se changer et là, le chef qui l'interrompt juste avant le vestiaire, qui commence à lui parler de la nouvelle carte, sauf que c'était en plein été et qu'au fur et à mesure de la conversation, il avait le beurre qui commençait à fondre sous sa toque. Voilà, et il avait toujours des petites anecdotes comme ça à me raconter qui me faisaient beaucoup rire et qui m'ont donné aussi envie de faire ce métier parce que je crois que ça résume aussi un peu... l'environnement un peu foufou de la cuisine.
Qui ressemble à Ratatouille. Hein. Ah ouais. Il y a un petit côté Disney là, dans ce que vous racontez. Avant de rentrer plus dans les secrets de votre cuisine, Julia Sedef-Jean, on passe au moment girls, au moment test jeune et jolie. J'aimerais savoir quelle estivante, quelle vacancière vous êtes. C'est l'interview haute saison. Alors déjà, est-ce que vous partez en vacances l'été? Parce que là, vous n'êtes pas en vacances.
Alors, je ne suis pas en vacances, bossez. Mais je reviens d'un petit peu de vacances quand même.
Et où est-ce que vous êtes parti?
Je suis parti à Nice, voir un petit peu ma famille. Et 2 jours à Lyon.
Voilà. C'est votre recette incontournable de l'été?
Il
y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, mais ma recette incontournable de l'été, je dirais... la pisse à la dire, je la fais tout le temps. En vrai, c'est même pas ma recette de l'été, c'est ça le pire. Non, des beignets de fleurs de courgette.
Ok, très bien, je valide aussi. Ce que vous adorez en été?
Le soleil,
ouais.
La chaleur.
Là, les
moi, je suis en manque de ça à Paris. Donc,
les 32 degrés ne vous suffisent
pas. Pas.
D'accord,
pas.
Très bien. L'odeur de votre cuisine en été?
L'odeur de ma cuisine en été, l'ail, l'oignon, le thym, le romarin.
L'aliment typique que vous mangiez l'été quand vous étiez petite?
Les aubergines. J'adore l'aubergine.
On va se plonger dans vos casseroles, Julia Sedef-Jean, mais avant ça, j'ai envie de vous replonger, vous, dans l'été de vos 20 ans, le premier été de liberté. On est en 2015, l'avocado toast est au centre de tous les brunchs, le chou-fleur se teint en violet, et Jean-François Mallet publie le premier livre de recettes simplissime. Mais si on s'éloigne de l'assiette, il se passe beaucoup d'autres choses. Écoutez bien.
Salut, je m'appelle Scott.
T'es qui exactement?
Je suis Ant-Man,
l'homme fourmi.
Vous avez pas entendu parler de moi? Je suis venu vous emprunter un appareil électronique. Seulement pour quelques jours, je le rapporterai. J'en ai besoin pour sauver le monde. Vous savez ce que c'est?
Ouais, en effet, je sais ce que c'est. J'ai localisé l'intrus. Je vous l'amène tout de suite.
Désolé, je dois filer.
Ce sont quelques petits degrés, mais qui en disent long sur le réchauffement climatique. En moyenne, le mois de juillet 2015 a été de 0,81 degrés plus chaud que tous ceux du XXe siècle. C'est un record.
Comment connaissez-vous Yennefer ?
Quelle question ? Par les balades de Maître Jasquier, bien sûr. Ce moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur. À moins qu'il soit aussi chanceux que moi.
Et qu'il rencontre un sorceleur très patient.
Le célèbre Gérald de Rive. Santé.
Alors, on vient d'entendre un extrait du film Ant-Man. On a entendu du PNL, évidemment, Le Monde ou Rien, le jeu vidéo The Witcher 3. Est-ce que vous vous souvenez, Julia Sedefjan, de l'été de vos 20 ans ? J'imagine que vous charbonniez déjà derrière les fourneaux, non ?
Ouais.
Où est-ce que vous étiez ?
Je m'en souviens très bien. J'étais au Fab de la Fontaine et c'était mon
donc
premier...
Donc un resto à Paris.
Oui, un restaurant étoilé à Paris. Et je venais de prendre la place de chef.
Donc un été
de 20 ans, studieux.
Donc
un été derrière les fourneaux avec des gros challenges. Puisque l'année d'après, on va obtenir notre première étoile où je serai la chef. Donc on a bien bossé, on avait fait des gros travaux, donc en plus on avait vraiment fait un gros changement dans le restaurant. Donc
parce que la cuisine était toute petite, c'est ça hein,
elle était toute petite et au rez-de-chaussée, et on l'avait passé en sous-sol, agrandi le restaurant. L'idée c'était vraiment de casser les prix presque en deux pour faire une cuisine vraiment accessible à tous. Et c'était faire ma première carte aussi,
ouais,
en tant que chef.
Donc, qui ressemble à quoi votre carte
au début,
de l'été 2012.
Ouais, au début, elle ressemble pas à grand chose, ma carte. Hein. Vous savez, quand on m'a proposé la place de chef, la première chose que je me suis demandé, c'est mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai
c'est
toujours
quoi,
eu
mon
l'habitude
identité,
de. Bah ouais, c'est ça. J'ai toujours fait à manger pour mes chefs, essayer de comprendre leur vision. Et là, tout d'un coup, bah, c'était moi. Et au début, bah, tu fais un peu ce que t'as appris tout le long de ta carrière. Aujourd'hui, j'ai mon identité, j'ai ma personnalité, mais au début...
Et puis à 20 ans, vous êtes très très jeune aussi.
Ouais.
Avant de remonter dans le temps et de chatouiller nos naseaux avec des effluves d'aïoli, on reste en 2015 avec ce titre dans lequel Héloïse s'est rebaptisée Christine.
Je commence le livre par la fin et j'ai le menton au bourrin rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient.
Ciel coule sur
Les débuts de Christine and the Queen sur son album bien nommé Chaleur humaine.
France Inter. Le mag de l'été.
Il y a toutes les gammes du rouge et des couleurs vives. C'est une symphonie de vacances que nous a préparé le chef de chez Max. Une symphonie de vacances dont il va nous donner le ton. Ce ton que nous vous accommodons d'ailleurs à la niçoise. Chef, ce ton à la niçoise est prévu pour 4 personnes et vous y mettrez d'abord 1 kg de carottes, 1 livre d'oignons, 1 livre de tomates fraîches, 2 gousses d'ail, un bouquet garni naturellement, l'huile d'olive car ce ne serait pas provençal.
Bien entendu.
Et 3 livres de thon. Alors chef, ça vous nous le garantissez, c'est excellent et ça se mange froid.
Ça se mange froid. Ça rappelle beaucoup le veau à la couleur, mais ça n'a strictement rien à voir.
Extrait de rendez-vous à 5h sur la cuisine niçoise en compagnie du chef Max. On est en 1958. Alors Julia Sedefjan, vous êtes née à Nice. Pour vous, c'est quoi la cuisine niçoise? Qu'est-ce qu'elle raconte?
Ah, pour moi, la cuisine niçoise, c'est une cuisine familiale, généreuse et végétale surtout. On fait beaucoup de légumes. Et c'est une cuisine qui a l'air simple, mais qui prend beaucoup de temps à faire aussi.
Qu'est-ce qui prend beaucoup de temps?
Les cuissons, les préparations. Mais c'est une cuisine que j'adore. Et elle fait clairement partie de mon identité. Et c'est une cuisine que j'ai voulu faire tout de suite dans mon restaurant, même si c'est pas que de la cuisine niçoise. Mais ouais, j'adore les légumes, j'adore le poisson. Donc voilà, c'est des aliments que j'ai eu l'habitude de voir dès toute petite.
Vos parents sont d'origine arménienne et sicilienne. Ça donnait quoi, les repas de famille? Je suis assez d'avion. Entre Nice, la Sicile et l'Arménie.
Ça donnait des repas toujours mouvementés.
D'accord.
Mais je pense que c'est ça qui m'a donné aussi...
Culinairement ou en termes de sonorité?
En termes de sonorité, quand on était nombreux à table, c'est sûr. Le côté arménien avec les mezzés plein à la table, 10-12 autour de la table, c'était un peu à celui qui allait... à l'écrit le plus fort et côté italien toujours du bien manger mais mamie cuisinait très bien les deux.
C'est elles qui vous ont transmis aussi ce goût des fourneaux, j'ai envie de dire.
Ouais, elle aussi bien sûr.
Quel rapport vous entretenez avec l'école? Parce que vous nous avez dit en tout début d'émission qu'il y avait le père de votre marraine qui était chef pâtissier. Alors à quoi ça ressemblait à Julia Sedefjan à l'école?
Ouais, je pense que j'ai adoré l'école jusqu'en CM2.
Vous saviez tout de suite en fait que vous vouliez pas faire des études et vous lancer en cuisine?
Ouais, à 12-13 ans, j'ai commencé à dire à mes parents voilà, j'irai pas au lycée, donc j'ai
envie
de
faire quelque chose. Ils l'ont perçu comment ce choix?
Un petit peu difficile au début. Mais plutôt parce que j'étais jeune et qu'ils avaient, je pense, des peurs et des doutes. Je pense que quand on est parent, c'est normal. Aujourd'hui, je suis maman, donc j'imagine, moi, quand mon fils me dira ça, je pense que je me poserai plein de questions aussi. Mais en tout cas, ils m'ont toujours accompagné et suivi par la suite quand ils ont vu que c'était vraiment ma passion, en fait.
Et vous commencez donc à Nice, c'est vos premiers pas, à l'Aphrodite, chez David Faure. Et vous découvrez tout un jargon que vous ne comprenez pas. Vous vous souvenez de vos premiers jours avec ce jargon complètement opaque pour vous à l'époque?
Mais déjà, j'étais terrorisée, ce qui n'était pas vraiment mon cas d'habitude, puisque j'étais plutôt quelqu'un d'un peu rebelle, etc. Et là, j'arrive dans une cuisine, la brigade, le chef, et la première phrase que mon chef va me dire, c'est « Mets ça au dur !» Et là, je me retourne, je le regarde et je me dis « D'accord, j'ai rien compris. » Donc, ça commence très mal. Et quand on parle d'un dur, chez nous, c'est « mets ça au congélateur ». Donc, il me tendait une glace, mais moi, je comprenais pas. Donc, je suis resté bloqué pendant 2 minutes. Et pendant le service, c'était plein d'annonces comme ça que je comprenais rien. C'était 2 qui passent, 4 qui passent.
Et ça, c'était quoi?
Je me disais, mais pourquoi il me parle de cuisine mexicaine? Je suis dans un restaurant français, niçois. Et en fait, non, c'était juste les gens qui rentraient dans le restaurant. Tu vois, donc voilà, les premières semaines, c'était ça, ma vie en cuisine.
Et puis, vous n'avez que 14 ans, vous êtes entouré de collègues qui ont 10 ans en moyenne de plus que vous. Vous avez, j'imagine, grandi un peu vite, quoi, avec cette bande, non?
Ouais. Ça, c'est sûr qu'ils m'ont aidé à grandir vite, à être mature, à prendre des responsabilités aussi. Et c'est vrai que souvent, on pose la question, ouais, mais t'as pas eu d'adolescence, du coup. Oui, j'ai commencé à travailler à 14 ans, mais j'ai quand même, avec ces personnes-là découvert un peu la vie, finalement, parce que nos week-ends, nos jours de repos, ils m'embarquaient avec eux et ça m'a fait découvrir le monde aussi.
Le monde de la nuit aussi, ouais.
Un peu, ouais.
À 17 ans, vous montez à Paris sans argent et sans poste assuré. Première étape, les Fabs de La Fontaine. En quoi cette cuisine, elle était différente de celle que vous aviez apprise chez David Fort à Nice?
Ouais, l'objectif, après mon apprentissage chez David, c'était de me faire...
Pourquoi Paris, en fait?
Ouais. C'était de me faire un CV aussi, parce qu'à l'époque, c'était très, très important. Paris par amour, parce que je pense que je l'aurais pas fait sinon. Mais super expérience. Et les Fables, quand je suis arrivé, Anthony, il sortait de Maison Ducasse. Donc, ça a été quelqu'un qui m'a formé complètement différemment qu'à Nice. Mais toujours dans la continuité d'une cuisine avec, voilà, beaucoup de poissons, beaucoup de légumes. Donc, c'est une cuisine avec laquelle j'ai directement accroché. Et c'était un beau challenge pour moi qui venais de province de prendre un beau poste dans un restaurant étoilé. Voilà.
Vous passez chef en 2015. En 2019, c'est l'étoile Michelin au Fab. C'est-à-dire que vous êtes chef...
En 2016,
l'étoile
au Fab. Okay. Ouais.
Donc 2016, l'étoile au Fab. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette journée? En gros, le restaurant était déjà étoilé. Et voilà. L'idée, c'était est-ce que ça va être renouvelé ou pas avec Exactement. Vous aux manettes? Est-ce que vous pouvez nous raconter?
C'était du coup le 1er février 2016. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, à part si je perds la tête. Pression énorme. Quand on a fait ces gros travaux, en réalité, l'étoile, on n'y a même pas songé. On était tellement dans tout remettre en place, moi qui prends la place de chef, etc. Et puis, un petit peu avant la cérémonie, vers le mois de janvier quand même, on se dit, imaginez si on perd l'étoile. Ça faisait 10 ans qu'elle était dans le restaurant. Et en même temps, on se disait, bon, voilà, j'ai 21 ans, on a tout changé. En fait, on s'est dit, ça serait logique presque qu'on la perde. Et du coup, le 1er février, la cérémonie du Michelin a lieu. Et pendant le service du midi, nous, on était déjà au moins un, donc pas de réseau, un peu dans notre grotte. Et plus de nouvelles du patron, il descend pas. Je me dis, oh là là, c'est sûr qu'il y a une mauvaise nouvelle. Donc on envoie tant bien que mal les tables, le stress qui commence à monter. Et vers 13h30, il arrive, il descend les escaliers, bouquet de fleurs à la main. Il s'agenouille devant moi.
Il vous demande en mariage.
Mais non. Et il me dit, voilà, je suis devant la plus jeune chef étoilée de France. Et là, c'était un moment incroyable.
On va parler aussi des retombées de cette étoile, de cette première étoile aussi jeune, puis de votre identité culturelle. Mais d'abord, un petit panorama de la culture. Ce sera après un tour à New York ou Nueva York, si vous écoutez Bad Bunny. Nueva York.
¿Quieres divertir?
Estoy en la... la mía no tengo adversario. No, con los yankees los me he avanzado. A correr que otra vez lo sacamos al estadio. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover, ba, 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 ba. Lo tienes que mover, ba, 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 ba. Lo tienes que mover, ba, 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 ba. Lo tienes que mover, ba, 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 ba.
C'est Bad Bunny sur Nueva Yol. Réservez votre été 2026. Il sera à Paris les 4 et 5 juillet. C'est complet. Alors, si vous voulez me séduire, offrez-moi une place.
Le mag de l'été. Constance Villanova sur France Inter.
Tous les jours, le mag de l'été passe en mode vigie culturelle. C'est le panorama.
Panneau.
Oui.
Obé.
Non, c'est panneau.
Ça fait une semaine et demie que je prends Ozempic, j'ai perdu 7 kilos.
Je me suis dit, c'est un produit miracle, ça va m'aider vraiment à perdre du poids.
Et à la fin?
C'est juste un produit super dangereux pour moi, en fait, maintenant.
Une fois que vous avez commencé, vous ne pourrez plus arrêter, donc ça veut dire injection toutes les semaines à vie.
J'ai perdu 10 kilos en 2 semaines. Et là, j'étais ravie. Je vomissais tout le temps, je mangeais pas. Et quand je mangeais, je vomissais. Mettre quelque chose dans ma bouche, ça me dégoûtait.
Depuis un an sur TikTok et Instagram, il est sur toutes les lèvres, l'Ozempic, à l'origine un traitement contre le diabète, conçu pour réguler la glycémie, mais détourné en coupe-faim miracle. Il alimente désormais un commerce souterrain et florissant en ligne. Aux États-Unis, un adulte sur 8 l'a déjà testé. Résultat, les restaurateurs s'ajustent à cette nouvelle culture de l'appétit zéro. Le New York Times raconte qu'à New York, un bar à bière a même créé un menu Ozempic friendly, burger rikiki de 56 grammes, poignée de frites de 43 grammes, boisson miniature. Et la tendance s'exporte déjà des cuisines de Londres à celles de Dubaï. Les assiettes rapetissent, les poches de ces restaurateurs gonflent et le culte de la maigreur perdure.
Des crêpes.
Mais oui, mais enfin, les crêpes, c'est très simple. Enfin, tout le monde sait faire ça.
Oui, mais enfin, on peut les faire plus ou moins bien, en tout cas.
Oh là là.
Oui, il faut en mettre beaucoup. C'est du rhum qui rentre comme parfum principal. Voyez-vous, j'en mets environ 3 fois plus ou 2 fois plus que je n'ai mis d'anis, c'est-à-dire un tiers environ d'anis, 2 tiers de rhum.
Et en tout,
ça doit donner un très grand verre à vin, un très grand verre à vin de Bordeaux, c'est-à-dire pas loin d'un quart de litre.
Nous, on garde de l'appétit pour l'événement culturel du jour, direction Dijon et sa cité internationale de la gastronomie. Vous n'y retrouverez pas les crêpes ultra-alcoolisées de Raymond Oliver dans Art et magie de la cuisine, mais vous pourrez vous installer à la table des Français, l'exposition permanente qui célèbre la gastronomie franchouillarde. Mais c'est surtout la collection temporaire que vous devez vous empresser de savourer. Jusqu'en janvier prochain, Croquer, la BD met les pieds dans le plat, propose de découvrir la bande dessinée sous l'angle de l'alimentation, avec des plans allant d'Astérix et ses sangliers au ramen de Naruto. Une exposition co-créée avec la ville d'Angoulême qui réunit papilles et vignettes. Et si vous êtes un grand lecteur gourmand, restez pour notre recommandation culturelle du jour.
À quoi reconnaît-on qu'un pain est bon sans le goûter? Ni à l'aspect, ni à l'odeur, mais au son que produit la croûte. Oh, une symphonie croustillante. Seuls certains grands pains sonnent comme ça.
Si vous habitez en ville comme moi et que vous avez entre 30 et 45 ans comme moi, vous avez sûrement des amis qui, après le Covid, ont rêvé de tout plaquer pour se mettre au fourneau. Dans son roman graphique Chaud devant, l'ex-grand reporter Géraldine Ménian raconte comment elle a troqué micro et carnet pour un CAP cuisine. Stage intense, mission parfois peu ragoûtante, aidée de l'illustrateur Hubert Vendry, elle croque l'envers du décor, démonte les clichés et manie l'humour aussi bien que ses couteaux. Une BD à offrir à ceux qui pensent que la restauration, c'est comme dans un Disney.
De Paris à Menton sur la Côte d'Azur, la Nationale 7 traverse la France sur plus de 1000 km. Cette route, Des millions de Français l'ont emprunté pour partir en vacances. Et au bord de la Nationale 7, ils avaient besoin de manger. Et ça a révolutionné la cuisine française.
Notre route 66 à nous, la mythique Nationale 7 a forgé la gastronomie française. Sur France 3, le documentaire de Stanislas Kraland retrace les étapes gustatives de ces 1000 kilomètres de Menton à Paris. De l'après-guerre aux années Bocuse, la N7 a vu éclore des tables légendaires, Trois Gros, Mère Brasier, Ferme en Point, et des plats iconiques comme le saumon à l'oseille. Archives, anecdotes savoureuses et doux parfums de vacances, le tout avec la douce voix de Juliette Armanet. Le doc, quand la Nationale 7 révolutionna la gastronomie française, a rattrapé d'urgence sur France TV.
Je pense que la cuisine, c'est l'éveil de tous les sens. Et un des sens, c'est la vue, bien sûr. Donc, quand on voit une assiette, on a déjà une indication de ce qu'on va goûter. Mmh. Donc forcément, vous savez, le fait que les verres soient bien verts, que les couleurs soient très authentiques sur les produits dans une assiette, ça implique aussi des techniques de cuisine pour obtenir ça. Et du coup, c'est un savoir-faire. Donc bien sûr, côté aussi brillant d'une assiette, la cuisine française est brillante parce qu'il y a du beurre, il y a un peu de crème. Ouais. Alors, beaucoup moins qu'avant, certes, mais c'est toujours c'est une cuisine lactique, la cuisine française.
On vient d'entendre Anne-Sophie Pic au micro de Sonia De Villers, la seule chef triplement étoilée en France. Elle incarne une humilité, une ténacité qui vous inspire, Julia Sedefjian. Vous ouvrez votre restaurant avec vos deux associés, Sébastien Jean-Joseph et Grégory Anelka, en 2018. Pourquoi Anne-Sophie Pic est un modèle pour vous ?
Bah, vous venez de le dire. Seule chef femme 3 étoiles en France. Parcours remarquable. Elle n'a pas fait du tout un parcours de cuisine au début. Et quand elle a repris l'affaire familiale, bah, y a eu pas mal d'embûches quand même. Et je l'adore, cette chef.
Vous adorez quoi dans sa cuisine?
Je suis fan de sa cuisine, je suis fan de la personne qu'elle est, de ce qu'elle dégage. C'est quelqu'un de très humble, très accessible, alors que c'est une grande dame pour moi. Et elle parle cuisine et t'as envie de l'écouter des heures. Et le niveau technique, il est juste incroyable et ça fait rêver, en fait. Et je me dis, oui, c'est un modèle pour moi. Elle me guide aussi pendant mon parcours. Et je me dis peut-être qu'un jour... essayer
vous
même d'arriver à sa cheville, quoi.
À Bayetta, votre restaurant à Paris, il y a une recette emblématique, la bouillabaisse. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce plat et ses odeurs pour nos auditeurs et pourquoi vous voulez la revisiter, d'ailleurs?
Quand j'ai ouvert Bayetta, c'est la première fois où je me suis dit, je vais réinterpréter la bouillabaisse à ma manière. J'avais fait l'aïoli, la bourride, avant, aux fables, etc. Et là, je me suis dit, allez, ça faisait déjà quelques années que j'y pensais, mais je n'avais jamais sauté le pas. Pourquoi ? Parce que j'avais peur des chauvins marseillais.
Tout le monde a peur des Marseillais.
Et je me suis dit, non, mais je vais faire ma version, en fait. Parce que j'adore ce plat, parce que c'est un plat familial aussi. L'histoire, les pêcheurs qui faisaient leur soupe avec les poissons qui restaient, les poissons de roche, etc. Et voilà, on a essayé de la rendre sexy. Nous, on la sert en trois parties. Donc, j'ai mon assiette centrale avec une mousseline de fenouil, pommes de terre safranées, trois poissons différents qui sont cuits, nacrés et qu'on laisse pas des heures dans un bouillon. On vient verser la soupe très réduite devant le client et à côté, ça accompagne une petite salade de fenouil croquant, poulpe ou coquillage en persillade avec un toast à la rouille, bien sûr. Et c'est un plat que j'ai jamais pu enlever de la carte de Bayetta.
Dis-moi seulement, après l'ouverture de Bayetta, justement, une étoile Michelin en janvier 2019. Moi, ce qui m'a marqué en voyant les photos de vos équipes, c'est leur jeunesse, le fait que ça soit paritaire. Y a quand même pas mal de violences psychologiques en cuisine. Vous racontiez parfois en interview qu'au tout début, quand vous étiez chef, vous aviez du mal, par exemple, à donner un jour de congé à un membre de votre équipe parce qu'il avait l'anniversaire de sa grand-mère ou quoi. Comment vous êtes adapté, puisque vous avez beaucoup sacrifié, justement, vous, dans votre vie perso, dans votre jeunesse, pour arriver là où vous en êtes. Comment vous faites maintenant, aujourd'hui, avec vos salariés, pour les protéger, justement ?
Ouais, je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant que chef ou patron d'entreprise, il faut qu'on s'adapte à une réalité. C'est qu'il y a eu beaucoup d'abus avant. Je dis pas que si je devais le refaire, je le ferais pas pareil, parce que je pense que c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui a fait que j'ai eu un parcours fulgurant et aussi jeune, parce que j'ai travaillé sans compter, parce que j'avais peu de jours de repos, parce que j'ai fait, refait, refait des gestes. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup d'histoires et de gens autour de moi, surtout après Covid, vraiment, où je me suis rendu compte, ok, plus personne veut travailler dans notre secteur.
Baisse,
pourquoi
ouais,
en fait
c'est pas attractif.
Enfin, il y a un moment, faut arrêter de fermer les yeux. Il y a bien une raison, et on en connaît. C'est pas nouveau qu'on travaille beaucoup. Mais il y a un moment, pendant 2 mois, on est resté à la maison. On a découvert une autre vie. Être à la maison le soir, profiter de ses amis, sa famille, ça c'est quelque chose qu'en restauration on fait très peu.
Et que vous avez fait très peu aussi.
Bien sûr.
Ouais.
Trop peu. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'essayer de faire les choses différemment. Et c'est pour ça que j'ai essayé de comprendre comment on pouvait trouver un équilibre entre notre vie professionnelle, notre vie familiale et personnelle. Parce que je pense que quand on est épanoui, eh ben, dans notre vie, ça se ressent au travail aussi. Donc, dès après Covid, on est passé à 2 jours et demi de repos. Et maintenant, ils sont à 3 jours de repos par semaine. Et bon, ils font toujours beaucoup d'horaires sur les 4 jours. Hein. Mais par contre, ils ont 3 jours de repos pour profiter, se reposer et faire des choses aussi. Aller au musée, aller au cinéma, tu vois, les trucs que tu fais pas quand
oui,
tu fais ces métiers-là.
Oui, il faut déconstruire le mythe de « il faut souffrir absolument pour réussir ».
Ouais, je pense qu'on n'a pas besoin d'autant de violence et d'autant de sacrifices, même si l'enfant en peut, je pense.
Bah justement, vous, alors que votre carrière, elle explose, vous avez eu un enfant avec votre ex-compagne. Comment vous conciliez ce métier dévorant et votre vie de famille ?
Bah c'est dur de trouver l'équilibre au début. Hein. Moi, mon restaurant, c'est mon premier bébé. Et c'est vrai que j'ai jamais compté mes heures, et d'autant plus parce que c'est le mien. Et puis même quand tu penses que ça va aller mieux la semaine d'après, qu'il y aura un autre cuisinier qui va arriver, que tu vas pouvoir te dégager du temps, bah nous, en fait, il y a toujours des imprévus. Donc même quand tu promets de prendre une soirée, de prendre un week-end, c'est toujours à la dernière minute. Bah, en fait, tu peux pas parce que tu dois être au resto. Donc, c'est compliqué. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut savoir déléguer aussi. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai appris à faire aussi.
Vous vous êtes aussi engagé récemment contre la loi Duplon, Julia Sedefjan. Vous avez signé une tribune aux côtés d'autres chefs. Pourquoi c'était important pour vous de vous engager sur ce sujet ?
Bah parce qu'en tant que chef, nous, on se bat pour faire vivre des petits producteurs et qu'encore une fois, on essaye de faciliter les choses pour les gros, les industriels, et que bah, c'est énervant, en fait. C'est énervant et du coup, voilà, petit ras-le-bol. Et je suis engagé dans pas mal de choses et pour moi, ça, c'est important aussi.
Voilà. J'ai appris, d'ailleurs, Julia Sedefjan, que vous dessinez vos recettes, c'est vrai ? Avant de les faire.
J'adore dessiner mes recettes.
Vous avez un petit calepin de recettes.
Ouais, j'ai un petit calepin de recettes.
Et ben justement, on va être rejoint par un artiste de l'assiette. Il s'appelle Franck Hamel. Il sublime nos assiettes et parvient à nous faire saliver en un cliché. Mais d'abord, on va vous présenter une autre Julia, Julia Sedefjan, qui chante Balade sur France Inter.
J'ai pris un aller simple sans retour. Baby, tu me retiens quand je cours. Fais ce que tu peux, si tu vois que je cours aussi longtemps que je peux, je retiens mon souffle. Parfois mon cœur crie allez, j'aimerais que le temps s'arrête. Tout devient vaporeux comme une cigarette. Le temps m'a pris de court. Je n'ai plus de temps.
m'a pris de court. Je n'ai plus le temps de crier au secours. Mais la route est longue, le temps m'a pris de court. Je n'ai plus le temps de crier au secours.
C'est enchantée Julia qui sera justement en balade à Roquencenne le 21 août et à Rouen le 25 septembre.
Le mag de l'été sur France Inter.
Pour ceux qui nous rejoignent, je suis toujours avec vous, Julia Sedevjan, et nous sommes trois en studio. Nous avons été rejoints par Franck Hamel. Bonjour Franck.
Bonjour.
Adepte de la lumière naturelle, pour vos photographies, vous sublimez les plats, légumes et fruits comme des œuvres d'art. Aujourd'hui, vous travaillez pour des chefs, des marques d'alimentation et la presse spécialisée. Franck Hamel, vous avez commencé comme photo-reporter de l'Asie au Maroc, avant de poser vos valises en France et de vous consacrer à la photographie culinaire. Pourquoi ce choix ?
Pourquoi ce choix ? Parce que je suis gourmand, déjà.
Excellent
gourmand
argument.
Gourmand et gourmet. Disons qu'au retour en France, la photographie de reportage, c'est quand même un univers qui est compliqué pour en vivre. Et en 2010, lors de mon retour, c'était vraiment la tendance des livres de cuisine. Et il y avait beaucoup de demandes en photographie culinaire. Sauf que moi, je n'étais pas un photographe de studio à la base. Et donc, c'était un... Je cuisine, j'adore aller au restaurant, mais j'avais jamais associé
ces deux passions.
Ces deux passions, exactement. Et je me suis dit pourquoi pas, essayer. Et voilà.
Comment vous pouvez nous définir votre métier ?
En fait, on est vraiment des spécialistes en tant que photographe culinaire. On connaît les tendances, on connaît les codes aussi des restaurants. Donc, on sait où se placer pour pas trop gêner, même si on gêne toujours un petit peu.
C'est important, ça.
Exactement. On essaye de se faire discret. Donc, on est vraiment des spécialistes dans la photographie, dans ce domaine qui est quand même très particulier.
Justement, il y a tout un travail de mise en scène hein, aussi sur ces photos culinaires. Est-ce que vous avez déjà vu ou vous utilisez des astuces un peu surprenantes ? Il y a des rumeurs, par exemple, on dit que parfois on utilise de la colle pour rendre le produit un peu verni, des éponges. Est-ce que c'est vrai ?
Ça a été vrai. Ça l'est de moins en moins, parce qu'on essaye de tricher de moins en moins. Aujourd'hui, on respecte le plat, on essaye d'éviter le gaspillage. Ce qui n'était pas le cas à une époque. Aujourd'hui, avec le numérique, ça va beaucoup plus vite. Avec l'éclairage, LED, les plats souffrent moins qu'à l'époque de l'argentique, avec des éclairages qui produisaient beaucoup de chaleur. Donc, il fallait tricher. Après, on triche encore dans la pub pour des fausses glaces. Parce que...
Mais justement, racontez-nous, parce que dans la pub ou pour des marques, comment vous trichez ?
Alors, tout dépend du produit. Il y a des produits, on n'a pas besoin de tricher, ça c'est plutôt pas mal. Mais pour l'exemple de la glace, effectivement la glace ça fond très très vite.
Donc qu'est-ce que vous mettez à la place de la glace ?
Alors là on fait appel à des stylistes culinaires.
Qu'est-ce que c'est alors que
un
ce styliste boulot
culinaire, c'est un, on pourrait dire un cuisinier, ou souvent il a une formation de cuisinier, mais il cuisine pour de la photo, pour de la vidéo, pour le cinéma. Donc, il adapte les plats, les cuissons. Souvent, on sous-cuit les produits pour qu'ils se tiennent un peu mieux. Et il fait briller les produits. Et pour les glaces, en fait, chaque styliste a son petit secret de fabrication qu'il ne dévoile pas.
Ah, c'est top secret.
Ouais.
Il y a une omerta de la glace. Vous travaillez beaucoup avec la lumière naturelle, ce qui est assez rare. Pourquoi ce choix ?
Alors, au début, c'était vraiment par... parce que justement je ne maîtrisais pas cette lumière du flash, puisque je n'avais pas une formation. Moi j'ai appris la photographie en autodidacte, donc c'était vraiment le reportage qui m'intéressait, où on s'adapte à la lumière que l'on trouve le jour J. Et en me spécialisant dans la photographie culinaire, je me suis rendu compte que la photo en lumière du jour, est, en fait, c'est incroyable. Pour le food, c'est top. Et donc, par défaut, au début, j'ai utilisé la photo en la lumière du jour. Et puis, en fait, c'est devenu ma marque de fabrique parce qu'elle est magique.
Franck Hamel, avec les réseaux sociaux et le flot de hashtags, je pense au hashtag foodporn ou foodie, les gens adorent désormais photographier leur nourriture. Cette photo, elle inonde les réseaux. Est-ce que ça a fait évoluer votre métier? Est-ce que ça le sert ou ça le dessert?
Disons que tout le monde fait des photos, mais tout le monde n'est pas photographe. Ça a peut-être désacralisé un petit peu le métier. Je pense que c'est une tendance qui est là, donc il faut faire avec. Je pense pas que ça nous aide. mais c'est comme ça.
Ouais. Julia, c'est des gens pour se faire connaître aujourd'hui en tant que chef. Quand on a un resto, on doit aussi utiliser l'image et les réseaux sociaux. Comment vous travaillez avec les réseaux sociaux? Comment vous alliez les deux, l'image et votre activité?
Moi, j'ai un photographe culinaire aussi qui me fait mes photos, mes vidéos et qui s'occupe de gérer mes réseaux parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire.
Mais qui est
que
important
j'ai pas le temps
maintenant,
de faire, mais ouais. Qui est super important de faire, et surtout à Paris, je pense, parce qu'on a énormément de concurrence et qu'il faut aussi que nos comptes, ça soit des vitrines pour le restaurant et que les gens puissent tout de suite s'imprégner de l'ambiance du restaurant, des plats, de l'identité. Donc oui, aujourd'hui, ça fait partie... clairement de ce qu'on travaille presque au quotidien.
Et cette obsession de prendre en photo son plat quand on sert, vous en pensez quoi, Julia? C'est des gens, est-ce que ça tue pas un peu l'expérience, le fait que les clients à chaque fois prennent leur plat en photo?
Ceux qui le font rapidement. Ceux-là, je les excuse. Mais ceux
attention
qui prennent 10 minutes et qui finissent par manger froid, ça
peut énerver.
Ça devient un problème.
Ça peut énerver. Vous avez photographié, Franck Hamel, des desserts de Julia Sedefjian. Ça ressemble à quoi en image, ces desserts? Comment vous pouvez nous les décrire?
Ah, c'était très graphique. C'était très graphique. On avait travaillé... Donc, c'était un client qui m'avait envoyé chez Julia. Et je me rappelle de quelque chose de très gourmand, très très graphique.
Tu t'en souviens?
Et quelle
mieux
couleur
que moi.
Alors
alors moi aussi, ça date un petit peu ces photos. J'aurais pu réviser. Mais je me rappelle d'une photo de vraiment rasante avec une espèce de chantilly. Enfin, c'est ce que j'ai en tête. Il y avait du jaune, il y avait du blanc. C'était très graphique. Je ne pourrais pas dire ce que c'était. Je suis désolé.
Là, peut-être que vous allez vous en souvenir, mais ça a été quoi le shooting culinaire le plus difficile de votre carrière, Franck Hamel? Est-ce qu'il y a un souvenir où ça a été particulièrement difficile?
C'est souvent difficile du fait qu'on se remet toujours en question. Après, il y a des shootings qui sont toujours assez différent, puisque si on va dans un restaurant, voilà, il faut qu'on s'adapte au lieu, il faut qu'on s'adapte à la cuisine, il faut qu'on s'adapte à la lumière qu'on aura le jour J. Si c'est un travail de commande, on est en studio, tout est préparé à l'avance, on a une équipe, donc c'est voilà, on anticipe les problèmes éventuels. Après, ce qui peut peut-être plus être compliqué, c'est quand on me donne carte blanche pour mettre en valeur un produit ou une marque et où il faut imaginer la photo de A à Z. Bien comprendre les demandes. Donc c'est peut-être ça la difficulté.
Comment on raconte une histoire avec un plat? Comment on donne faim avec un plat sans même avoir le goût et l'odeur? Comment on donne faim avec une image?
Et c'est toute la difficulté. Il faut déjà que le plat ou le produit soit beau, soit frais, soit bon. C'est comme un chef, en fait. C'est plus facile de sublimer un bon produit qu'un produit un peu bancal où il va falloir tricher pour essayer à le rendre un peu sexy. Et c'est vraiment la lumière, déjà. La lumière, c'est la base. Une belle lumière, qu'elle soit artificielle ou naturelle. On raconte une histoire quand on fait une photo. Donc le décor, le fond, l'arrière-plan, jouer sur les contrastes, les accessoires. Et et vraiment le respect du produit.
Vous photographiez aussi des plantes et des végétaux, c'est ça ? Vous donnez une dimension artistique aux produits bruts. Qu'est-ce qui vous attire dans toutes ces images dépouillées ?
Alors en fait, moi, cette série de produits bruts a démarré quand j'ai commencé la photographie culinaire, parce que justement, je ne suis pas cuisinier. Et quand je voulais m'entraîner à faire des photos, je n'allais pas préparer des plats, parce que j'aime cuisiner pour moi, pour mes amis. Mais voilà, je ne suis pas cuisinier. Et donc, j'ai pris le parti de travailler avec des produits bruts, des ingrédients que je n'avais pas besoin de transformer. Et en fait, c'est devenu une véritable série. Et encore aujourd'hui, je continue cette série de produits bruts.
Eh ben, merci beaucoup, Franck Hamel. Les vacances, c'est bien, mais avec le bon livre, la bonne série, le bon podcast, c'est encore mieux. Alors, on met quoi dans la valise ? C'est le kit de survie culturelle. Julia Sedefjan, la chef à suivre. J'ai dit là.
Je vais dire une amie à moi, Fanny Herpin, chef au Camondo dans le 8e, si je dis pas de bêtises.
Pourquoi ? Parce que c'est une amie.
Déjà parce que c'est mon amie, mais en plus parce qu'elle est talentueuse et que le lieu est incroyable. Donc,
Franck Hamel, le photographe non culinaire qui continue de vous surprendre.
Il y en a beaucoup. Stéphane Lavoué, photographe de portrait.
Pourquoi lui ?
Parce qu'il a vraiment un travail de la lumière incroyable.
Julia Sedefjan, l'aliment le plus sous-estimé de la cuisine que vous adorez ?
L'anchois.
Vous le dites avec une voix hyper sensuelle, l'anchois. Vous en mettez partout ?
Pas partout, mais bon, quand j'étais petite, j'aimais pas ça.
Ok.
Et j'ai beaucoup de gens autour de moi, dès que je parle d'anchois, c'est « Ah non, mais l'anchois !» Mais c'est trop bon l'anchois, en fait.
C'est magnifique, je suis d'accord avec vous. Franck Hamel, un compte food à suivre sur les réseaux.
Alors, c'est pas parce que je suis sur Radio France, mais François-Régis Gautry.
Ah, notre ami dont on va déguster. Les différentes recommandations du kit sont à retrouver sur le site et l'appli Radio France, évidemment. Merci à tous les deux, Julia Sedefjan. Je pense que vous nous avez convaincus. On va se ruer dans votre restaurant Bayetta situé dans le 5e arrondissement de Paris. Le menu du midi commence à 60 euros. Franck Hamel, on retrouve vos photos sur votre site photographeculinaire.net et sur votre compte Instagram qui porte votre nom. Vous serez aussi au Festival international de la photographie culinaire en octobre à Paris. Joyeux et joli mois d'août à tous les deux. C'était le Mac de l'été avec Louise Tempero, Tarana Touri et Ibrahim Damani à la préparation de cette émission. Etienne Bertin à la réalisation, assistée d'Amazir Amadein Guest et d'Etienne Kenel, à la technique Guillaume Roux.